Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, l'émission Science et Recherche de Radio Campus Rennes. C'est déjà la dernière de la saison et pour ce numéro final, le Labomatique s'est rendu à la station biologique de Paimpont. Là-bas, nous avons rencontré Céline Janton, Mariana Boros et Daniel Alexandre. Tous les trois reviennent d'une mission de plusieurs mois au Congo-Brazzaville dans le parc national d'Otzala-Kokoua. Céline Janton et Mariana Boros sont biologistes au sein du laboratoire Ecobio à Rennes 1. Ces deux scientifiques n'ont en fait lieu que pour Gorilla Gorilla Gorilla, le nom scientifique du gorille des plaines. Elles passent leur journée à l'observer pour comprendre son comportement. Daniel Alexandre est lui auteur et dessinateur de bandes dessinées et il a suivi pendant un peu plus d'un mois nos deux scientifiques dans le but de réaliser un reportage BD. Et si il a observé également et dessiné la faune de cette forêt équatoriale, il s'est également intéressé à une autre espèce dominidée, les hommes et plus particulièrement les scientifiques. Ensemble, tous les trois, ils nous racontent leurs aventures au cœur de la forêt équatoriale, à commencer par Céline Janton, qui nous explique un peu plus en détail leur sujet de recherche.
Alors, mon sujet de recherche, donc en fait c'est un peu le sujet général du projet Gorille qu'on mène à Ecobio, c'est-à-dire le suivi de populations de gorilles, donc populations sauvages, qu'on va observer dans le milieu naturel, dans les forêts équatoriales du Congo, Congo-Brazzaville. Donc c'est le suivi des populations au niveau de leur structure en termes de classe d'âge, sexe, mais aussi en termes de dynamique. La dynamique, donc, c'est-à-dire le mouvement des individus, les émigrations, les immigrations dans la population, mais aussi les mouvements d'individus d'un groupe à l'autre, les naissances, les formations de groupes, etc. Donc ça, c'est une première partie, c'est les données de base, on va dire, du suivi de la population. Et puis, avec tout ça, donc, on fait notamment des analyses statistiques qui permettent de comparer les différentes périodes d'études et de suivre s'il y a eu des changements ou pas dans les populations. En approfondissant encore, on va dire, les statistiques, on passe sur de la modélisation. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de déterminer les paramètres démographiques des populations, donc les taux de natalité, les taux d'immigration, etc., pour déterminer là, une projection, on va dire, des effectifs futurs de ces populations. Et donc, voir, par exemple, pour une des populations qui a été touchée par Ebola, qui a eu donc une forte chute d'effectifs, voir dans combien de temps on peut espérer qu'elle se rétablisse. En plus de ça, il y a le volet génétique, donc là qui permet, donc on travaille là à partir d'échantillons de crottes de gorilles, qui permet d'avoir les profils génétiques de chaque individu de la population et de travailler donc sur la diversité génétique des populations et là aussi de comparer les, notamment avant après l'épidémie et la variété, la diversité tout simplement génétique.
Vous revenez d'une mission de 4 mois donc au Congo-Brazzaville, pas confondre avec, j'ai bien retenu, avec la République démocratique du Congo. Et justement, quel était le but de cette mission? Est-ce qu'il y avait un but précis?
Comme c'est une étude à long terme, on essaie de suivre la population la plus en continu. Et donc, ce projet revient chaque année au Congo pour collecter les données. Donc ça, c'était le but de notre mission cette année aussi.
Donc du coup, voilà, l'objectif des missions est toujours le même, c'est-à-dire qu'on va tout simplement récolter nos données. Notre travail de recherche, il ne peut pas se faire sans les données de base. Et donc, voilà, étant donné qu'on travaille sur les populations sauvages, on part là-bas récolter les données sur notamment l'observation et puis le prélèvement d'échantillons.
Et vous, Daniel Alexandre, pourquoi avoir décidé de suivre ces scientifiques au fin fond de la forêt équatoriale?
Parce que... Non, tout simplement parce que j'aime les sciences, parce que j'ai un parcours de scientifique à la base. D'éthologiste et puis ensuite maintenant que je fais de la BD à temps plein depuis une douzaine d'années, j'avais envie de boucler la boucle et de faire un reportage, une BD autour des sciences, autour de l'éthologie en particulier. Et j'ai gardé des contacts dans le milieu avec des amis avec qui j'avais fait mon DEA et notamment Eric Petit qui lui a est chercheur maintenant. En fait, à l'occasion d'une rencontre amicale comme ça, je sortais d'un festival de BD breton à Saint-Malo et je lui parle de ça. Il me dit ça tombe bien, il y a une équipe qui part, c'est il y a 2 ans de ça, qui va faire 2 missions de 4 mois, une en 2013 et là en 2014, pour étudier le gorille au Congo. Alors, j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Je m'attendais pas à ce modèle-là, entre guillemets. Moi, c'est vrai que je ciblais plus modestement, c'est-à-dire que j'avais dans l'idée de suivre des gens qui étudient le loup, les cervidés, des trucs comme ça. Et quand il m'a parlé de ça, c'était le rêve, parce qu'on s'imagine que ça porte pas mal d'exotisme. En termes graphiques, c'est nettement plus riche, je pense. Donc voilà, et 15 jours après, j'amenais ma proposition ici et j'étais accueilli très chaleureusement. Et malheureusement, j'ai loupé la première mission, j'étais pas prêt, les financements, il fallait les constituer. Donc je suis parti lors de la deuxième mission, donc de janvier, pendant qu'elle restait 4 mois, moi je les ai suivis pendant un mois et demi.
Donc vous étudiez les gorilles des plaines. Est-ce que vous pouvez brièvement nous donner un peu la carte d'identité de cette espèce, notamment la différence avec les autres gorilles qu'on pourrait connaître comme les gorilles des montagnes?
Alors donc les gorilles des montagnes sont ceux qui ont été les plus étudiés depuis le plus longtemps. Et nous effectivement on travaille sur les gorilles de plaine et plus précisément les gorilles de plaine de l'Ouest. Alors déjà première différence en termes d'habitat, le gorille des montagnes habite en altitude, un gorille des plaines de l'Ouest habite, le parc national d'Otzala c'est en gros 300 à 700 mètres peut-être d'altitude. Ensuite au niveau morphologie et puis caractéristiques physiques, donc le gorille des plaines de l'Ouest a la tête rousse, le gorille des montagnes lui est complètement noir, mis à part le dos argenté toujours pour le mâle adulte. Gorille des montagnes est plus poilu, la longueur des poils en tout cas est plus importante. Ensuite le régime alimentaire aussi est différent. Gorille de plaine de l'Ouest mange beaucoup de fruits, ce qui lui impose aussi de se déplacer plus souvent et de façon plus importante pour trouver ses fruits. Alors que gorille des montagnes mange plus d'herbes, de feuilles, donc il peut trouver plus facilement. Ce qui en partie explique d'ailleurs la différence aussi au niveau social, puisque le gorille de plaine de l'Ouest, lui, au niveau familial, donc ce sont des groupes de type harem, donc avec un seul mâle adulte reproducteur, qui a plusieurs femelles adultes, et puis la progéniture au sein du groupe. Tandis que le gorille de montagne, lui, il peut y avoir plusieurs mâles adultes reproducteurs au sein du groupe, donc du coup des groupes plus importants. Les grandes différences qu'il peut y avoir. Et en termes de menaces, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que ce sont des espèces menacées d'extinction. Le gorille de plaine de l'Ouest, en termes d'effectifs, donc, possède le plus d'individus estimés, et pourtant est peut-être le plus menacé, notamment par ces épidémies justement qui peuvent engendrer de très forts taux et brusques diminutions de population.
Justement, pouvez-vous replacer le contexte de cette épidémie du virus Ebola qui a touché cette population de gorilles?
Alors donc du coup, nous on suivait notamment une population depuis 2001, donc pour tout simplement connaître les gorilles en temps normal, on va dire. Et puis donc est survenue une épidémie à virus Ebola fin 2003 et puis sur courant aussi sur l'année 2004. C'est une épidémie qui a touché aussi, qui a eu un impact aussi sur les populations humaines, sur des populations de chimpanzés et d'antilopes, causée par une souche du virus, parce qu'il y a plusieurs souches, donc c'était la souche Ebola Zaïre, la plus mortelle. Donc c'est en fait au début de ces années 2000, donc il y a eu plusieurs épidémies dues à cette souche-là, au niveau de l'Afrique centrale, donc au niveau du Gabon et du Congo-Brazzaville notamment.
Et pour observer ces gorilles, comment s'est déroulée la mission? Que faisiez-vous en fait?
Comme nous sommes là pour accueillir les données, nos données c'est surtout la fréquentation des gorilles et on essaye d'identifier chaque individu, donc nous travaillons à la base des photos. Donc en fait au gros on passe 10 heures dans un mirador sur une saline et on attend les gorilles pour qu'ils viennent. Et quand ils viennent, on prend plein de photos en grande résolution pour pouvoir voir bien les détails, parce que c'est les détails qui nous permettent de les identifier. Et nous avons une grande base de données des photos, et après avoir pris des photos, on essaie d'identifier les individus, de voir si ce sont des nouveaux individus ou si on les connaît. Et comme Céline avait dit avant, il y avait aussi une partie génétique de notre étude. À la fin de la journée, on part pister avec un pisteur congolais et on prélève les échantillons des crottes des gorilles.
Pendant ce temps-là, que faisiez-vous, Daniel Alexandre?
Pendant le pistage, je m'embourbais, mais non, les premiers temps, on a des images pour prouver ça. Ouais. Non, ce qui était bien, c'est que justement, c'est vrai que bon, elle parle des gorilles, mais il y a aussi beaucoup d'autres animaux qui viennent. Certes, c'est leur problématique, c'est là-dessus qu'elles vont me prendre des données. On voit aussi beaucoup de gros animaux comme des éléphants. C'est arrivé qu'elle voit aussi des panthères, des chimpanzés. Ça n'a pas été le cas pour moi. Je ne suis pas resté assez longtemps. Sur d'autres sites, je sais qu'il y avait des hippopotames. On a aussi reçu des photos d'un beau boa dans l'eau, là. Voilà. Mais oui, qui est un python, d'ailleurs. Et tout un tas de cortèges de différents petits singes aussi. Et évidemment, tout ce qui est oiseaux, beaucoup d'oiseaux, des buffles, on n'en a pas parlé. Donc moi, je prenais beaucoup d'infos là-dessus. Alors c'est paradoxal, mais je prenais plus de photos que je dessinais. Mais ça dépendait des ambiances, des sujets, des portraits, que ce soit les gens, les scientifiques, les animaux, ça bouge. Donc à dessiner, c'est pas évident des fois. Enfin, ça dépend. Il y a des choses qui sont intéressantes à croquer rapidement, des choses qui sont... Donc je dirais que, comme d'habitude, moi avec un crayon en main, je vois pas le temps passer. Voilà, mais mes journées étaient bien occupées, quoi. Donc ça aussi c'était précieux pour moi, parce que passer un mois et demi, j'étais au même cadence qu'elle, je voulais ça. Donc être dans des conditions de croquis du matin jusqu'au soir pendant un mois et demi, ouais, techniquement c'est intéressant, quoi, pour un dessinateur.
Et ce qui vous intéressait, c'était autant d'observer les animaux que les scientifiques?
Les deux, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. Non, c'est. Bah oui, moi le but annoncé de toute façon, c'était effectivement de couvrir les scientifiques, de parler d'eux. Mais moi j'ai annoncé la couleur aussi d'entrée, c'est-à-dire que le reportage portait sur tout ce que j'allais pouvoir voir là-bas. Donc effectivement les scientifiques, évidemment, et surtout les scientifiques, mais après il y a aussi beaucoup de choses qui sont impliquées, qu'on voit à travers leur passage là-bas, c'est-à-dire les Congolais, les villageois, le parc lui-même, l'infrastructure, les gens qui gèrent ça. Ça permet d'avoir aussi des informations et un regard sur... la vie, la politique, tout un tas de choses comme ça qui m'intéressent moi particulièrement, quoi.
Comment c'est de vivre au milieu de la forêt? Quelles difficultés vous avez pu rencontrer durant ces mois?
Oui, donc les insectes d'abord. Il y en a plein. Il y en a plein et il y en a certains qui aiment bien manger notre sang. Donc les insectes, je pense que c'est ça qui dérange le plus. Puis on est un peu isolé, donc on a travaillé avec les éco-moniteurs congolais qui faisaient une rotation de 11 jours. Et sinon, c'était les seuls gens qu'on pouvait parler, qu'on pouvait partager notre temps avec. Donc c'est aussi l'isolation. Parfois, c'est la fatigue aussi. Surtout quand il y a beaucoup de gorilles, il y a le travail le soir, donc ça aussi, mais franchement, je sais pas à quoi penser. Pour moi, c'est plutôt un plaisir que, que quelque chose qui peut manquer, je sais pas.
Oui, du coup, moi j'ai l'habitude, et puis je m'étonne au final à chaque fois de vivre aussi bien en forêt et dans des conditions aussi spartiate, mais comme quoi on n'a pas besoin de grand chose. Mais l'autre chose due aux conditions qui n'est pas forcément évidente, c'est l'humidité, tout simplement, et notamment pour la gestion du matériel, puisqu'on a notamment du matériel d'observation, donc de l'optique, de l'électronique, l'ordinateur, etc. Donc c'est du matériel à gérer en conditions très humides. Et puis tout simplement, c'est agréable de rentrer en France et de retrouver un lit sec. Ah si, des fois il manque quand même une bonne côte de bœuf.
Moi qui ai une expérience un peu plus courte, et bon, c'était par rapport à elle, c'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique là-bas. C'est vrai qu'au début, il y a plein de confort, entre guillemets, auquel on est habitué. Mais finalement, c'est ce que dit Céline, on s'en passe très vite. De toute façon, on n'a pas le choix, d'une part. Ensuite, on est là pour bosser. Et puis après, oui, bon, bah, les moustiques, c'est désagréable, c'est sûr. On se gratte jusqu'au sein, enfin moi en tout cas. Puis avec l'humidité à la chaleur, ça met un temps un peu plus long à cicatriser. C'est un peu pénible. Bon, on fait des erreurs d'amateur, c'est-à-dire que, bon, bah... On se met les pieds au sec en claquette le soir parce que voilà, on aimerait bien sécher un peu. Sauf qu'au bout du 50e moustique, bon bah, on remet les bottes ou les chaussures comme tout le monde. Quoi. Voilà. Mais c'est des petites habitudes qu'on n'a pas, qu'on doit prendre et puis qui peuvent en rebuter certains, c'est sûr. Mais de toute façon, on est là pour ça, donc on passe outre et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'un lit sec, moi je m'étais fait la réflexion aussi, et souvent on me disait, mais tu dormais en hôtel et tout ça. Très sincèrement, moi je m'étais amené mon petit matelas gonflable, et c'était sympa parce qu'au moins je ne sentais pas les lattes du sommier, il n'y avait pas de sommier. Et c'est vrai que de retour au camp, là, je me souviens, il m'avait confortablement équipé un lit, sauf que bon... j'ai pas dormi parce que je sentais les lattes. Je dormais mieux en forêt finalement. Bon, c'est plein de petits détails comme ça. Quoi.
C'était Fakir avec le titre Darjeeling, extrait de son nouvel EP Sauvage. Vous écoutez le Labomatique sur Radio Campus Rennes et nous sommes toujours avec Céline Janton et Mariana Boros, biologiste à Rennes 1, et Daniel Alexandre, dessinateur de bande dessinée, pour parler de leur expédition dans la forêt équatoriale au Congo-Brazzaville. Leur sujet de recherche concerne les gorilles des plaines de l'Ouest et notamment la façon dont ces populations ont été affectées par le virus Ebola. Céline Janton nous parle des observations faites sur le terrain concernant la récupération des populations après l'épidémie.
Alors, donc du coup, maintenant, on est 10 ans après l'épidémie. Déjà, à partir de la période d'études 2008-2010, on constatait que la population avait retrouvé une structure normale, ou en tout cas comparable à celle d'avant l'épidémie, donc structure en termes de classe d'âge et de sexe, et de répartition de type d'unité, c'est-à-dire qu'il y avait la même proportion de groupes et de solitaires qu'avant l'épidémie. Par contre, les effectifs restaient toujours très faibles, et même restaient stables depuis, juste après l'épidémie, on tournait à une quarantaine d'individus. Et donc, jusqu'à 2010, on en était toujours à une quarantaine d'individus. Donc maintenant, là, en regroupant la mission de 2013 et cette mission là en 2014, on atteint 55 individus observés, avec de la reproduction qui a eu lieu, avec des nouveaux individus, voire des nouveaux groupes qui sont venus sur la clairière. Donc du coup, voilà, on a non seulement retrouvé maintenant une structure a priori normale, en tout cas correspondante à celle d'avant l'épidémie, mais aussi une augmentation d'effectifs, donc 15 individus de plus par rapport à 40 individus, ça fait déjà une bonne augmentation, donc c'est assez rassurant pour l'avenir de cette population. Bah, si aucun autre événement un peu dramatique ne survient, si le braconnage reste un peu en recul, voilà, avec des si, tout devrait aller pour cette population, mais il faut bien voir une chose, c'est que tout ça, c'est du long terme, c'est des récupérations lentes, parce que le gorille, c'est à peu près un gorillon par 3 ans, voire 4 ans. Donc voilà, tout ça, c'est long, et puis faut juste croiser les doigts en espérant que tout aille bien pour eux. En tout cas, le site est toujours autant attractif, donc pour l'instant, on a des bons indices de récupération.
Vous disiez tout à l'heure que le gorille des plaines est une espèce menacée, donc entre autres à cause d'Ebola, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres facteurs, on va dire, plus anthropologiques ?
Donc il y a justement le braconnage pour la viande, pour des fétiches au niveau sorcellerie ou autre. Donc voilà, alors c'est difficile d'avoir vraiment des chiffres à ce niveau-là, mais une chose est sûre, c'est que c'est toujours qu'ils sont toujours braconnés. Daniel a pu d'ailleurs le constater à sa sortie de forêt puisque des équipes d'éco-garde, donc de la lutte anti-braconnage, avaient saisi quelques morceaux de bras et autres de gorilles. Et puis la déforestation, la dégradation d'habitat au sens large.
Est-ce que la contamination des gorilles par Ebola a pu avoir un impact sur le braconnage ? C'est-à-dire effrayer les populations, par exemple ?
Oui, en fait, si on parle à la population aux alentours, il y a certains villages où avant on mangeait les gorilles, parce que c'est pour ça qu'on les chasse, mais que maintenant ils ont dit que non, ils ont arrêté de manger parce qu'ils ont peur de la contamination. Mais il faut aussi savoir sur le braconnage que si on chasse les gorilles pour la viande, c'est pas forcément pour les gens qui sont pour les gens de village, c'est plutôt un symbole pour les gens de la ville, pour envoyer qui organise les trafics, qui veut montrer qu'ils sont riches, symbole de richesse, exactement.
Et donc maintenant que vous êtes revenu en France, quel est le travail qui vous attend ? Quel est le travail à faire après la mission sur le terrain ?
Donc le premier travail, c'est de finaliser les données. Donc on identifie au maximum les individus sur place. Mais il y a certains individus qui restent non identifiés, donc il faut déjà vérifier si effectivement ce sont des nouveaux individus ou si c'est juste des individus qu'on n'a pas encore reconnus. Donc il y a beaucoup de travail déjà sur la vérification de toutes ces identités. Puis ensuite, donc, la mise au propre de ces données, et puis après, derrière, donc, le travail statistique, tout ce qui est traitement de données, donc, que j'évoquais tout à l'heure. Et au niveau génétique aussi, donc là, sur les manipulations concrètement, c'est l'extraction d'ADN à partir des échantillons de crotte. Ensuite, c'est des manipulations génétiques, de biologie moléculaire, pour travailler sur cet ADN, à arriver à en tirer, entre guillemets, une carte d'identité biologique de chaque gorille, donc leur profil génétique. Donc il va être différent pour chaque gorille, comme nous avons chaque être humain à son ADN propre aussi.
Donc vous suivez ces gorilles depuis un bout de temps, et du coup, est-ce que vous avez déjà établi des hypothèses justement sur cette récupération des gorilles? Est-ce que vous pensez qu'ils vont retrouver une population comme avant l'épidémie Ebola?
Donc on a déjà identifié certains mécanismes qui ont permis au moins la récupération de la structure, notamment grâce à l'immigration d'individus, avec des nouvelles femelles qui ont permis de reconstituer des nouveaux groupes reproducteurs, et donc de relancer la reproduction, etc. À l'inverse, des jeunes mâles solitaires sont, eux, partis de la population, très certainement pour aller, au contraire, chercher des femelles ailleurs, dans des populations plus denses, et se reproduire ailleurs. Donc il y a des mécanismes comme ça qui ont été identifiés. Pour ce qui est de l'avenir de la population, donc c'est la modélisation là, qui peut nous donner quelques indices. Elle confirme effectivement que l'immigration aura un rôle important et même indispensable à la récupération. Et donc pour l'instant, ce sont des premiers résultats, des premières estimations, mais la population serait capable de se restaurer à des effectifs donc identiques à ceux de pré-épidémiques en 60-80 années. Mais voilà, bon, ce sont des premières estimations et ça reste de la modélisation. Et évidemment, en 60-80 années, l'homme est encore capable de faire beaucoup de choses, la nature aussi. Et donc tout ça, c'est des facteurs qu'on peut pas prévoir et qui auront forcément un impact aussi sur ces populations.
On a vu en début d'année 2014 de nouveaux cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous redoutez une nouvelle épidémie ?
On peut toujours la redouter vu les conséquences, mais en aucun cas on peut la prévoir. Pour l'instant, beaucoup de travaux sont faits autour des conditions d'émergence de ces épidémies, mais il reste encore un peu de mystère autour de ça. Toutes les clés sont pas trouvées. Et donc voilà, effectivement, a priori, on peut supposer que le virus est toujours présent en forêt, dans des réservoirs sains, notamment des espèces de chauves-souris. Mais voilà, on peut pas prévoir quand est-ce que ça va ressurgir.
Alors vous, Daniel Alexandre, durant ce mois et demi, vous avez fait bon nombre de dessins. Et que comptez-vous faire de ces dessins, de ces croquis ?
C'est de faire un reportage. Donc il y a plusieurs façons de le faire. La première sur laquelle je travaille à l'heure actuelle, c'est un carnet de voyage qui sera édité chez la boîte à bulles et qui va sortir en fin d'année ou début 2015. Après, avec Céline, on essaye aussi de travailler à des articles de vulgarisation scientifique pour de la presse jeunesse. Et le but ultime, c'est quand même, pour moi, ça serait de faire une BD reportage, un album BD assez conséquent, qui raconte un petit peu tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois autour des scientifiques, de la recherche, mais aussi... des choses qu'on n'a pas l'habitude de... Enfin, qui méritent reportage, hein, c'est-à-dire les conditions de vie, etc.
Et quel serait l'intérêt, à votre avis, de faire de la vulgarisation scientifique en BD ?
Aucun. La recherche ne sert à rien. Non, justement, c'est... On a l'habitude de... Pour moi qui suis un petit peu issu de ce milieu-là, fait qu'il est fréquenté quand même quelques années, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Quand on parle des chercheurs, on a souvent des images assez galvaudées, très réductrices, surtout quand on parle de recherche fondamentale. Donc je pense que c'est utile qu'on puisse parler d'eux un peu plus. Évidemment, je trouve ça plus drôle qu'on le fasse en dessin et en BD. C'est un média qui s'y prête aussi bien que la télé ou la radio. Et je pense que justement l'intérêt, c'est que la vulgarisation scientifique, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est, on a besoin, je pense que c'est des gens qui ne sont pas habitués à communiquer. Et moi, ça me ferait plaisir de les aider à faire ça.
Et pour finir, je pose cette question à vous trois. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette mission ?
C'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Mais bon, puisque le jeu, c'est de dire un truc, je dis souvent que ce qui m'a frappé... il y a beaucoup de choses autour de la nature qui m'ont frappé, mais bon, on en a déjà parlé beaucoup. Mais j'utilise le mot de simplicité. C'est-à-dire que j'ai vu un univers où les gens sont simples, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vivent simplement, qu'ils sont très chaleureux, qu'ils vont vous offrir le peu qu'ils ont. Alors certes, c'est caricatural, mais ça fait réfléchir aussi. Céline disait tout à l'heure, on s'habitue à vivre un peu de façon spartiate. Quand on revient en France, comme ça, on se dit, on passe un peu 15 jours comme ça, à se dire, mince, c'est quoi toute cette agitation? C'est, oui, mettre un pas de côté comme ça, c'est assez enrichissant, quoi. Et ça vient de la simplicité de la situation. Il y a beaucoup de choses où bon, ça se fera, mais c'est pas grave si c'est pas tout de suite. Et bah, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément la pièce pour réparer un moteur ou un truc comme ça. Mais voilà, ici j'ai l'impression qu'on mange trop, qu'on va trop vite, qu'on fait gaffe à beaucoup trop de détails qui sont superficiels, quoi. C'est un peu la leçon. Alors je révolutionne pas mon quotidien, hein. Attention, mais bon, ça fait réfléchir quand même.
Ben moi, je vais retourner à la nature. Et Céline, elle a entendu ça plusieurs fois pendant la mission, mais ce qui m'a frappé ou l'a plus marqué, que c'est un paradis là-bas. Et vraiment, il y a des moments où on voit d'un côté les gorilles, puis les éléphants, puis les buffles, tous ces animaux ensemble sur la saline. Et pour moi, c'est très, très touchant. Et c'est une réflexion personnelle que on est vraiment en train de perdre ça. Et nous, les gens occidentaux, on a une grande responsabilité dedans. Donc, je suis très, très gracieuse que je pouvais voir ça. Et j'espère qu'il y aura encore, que ça va rester et qu'il y aura des gens qui vont avoir la même expérience que moi.
Et alors moi, donc, je vais regrouper un peu les deux, on va dire. Entre effectivement le constat de la simplicité des conditions là-bas et puis qu'à la rigueur c'est pas forcément un manque, etc. En même temps la diversité au niveau faune, enfin de l'environnement biologique là-bas. Et tout ça pour au final avoir une vision peut-être générale de complexité, je dirais. Parce que tout ça effectivement ça se détache pas d'un volet à l'autre. Tout ça est lié, les populations humaines par rapport aux populations animales, les intérêts des conservateurs, enfin des gestionnaires du parc par rapport aux intérêts scientifiques, mais aussi par rapport aux intérêts politiques, les différentes histoires aussi des intervenants, les expatriés qui viennent pour gérer un parc, mais qui sont expatriés, qui n'ont pas leur histoire au niveau du parc, leurs ancêtres, etc. Donc tout ça fait que, voilà, y a, au bout de 5 missions, il y a quand même un certain recul qui se fait. Et de façon générale, on se rend bien compte que la situation est complexe et que bah, c'est pas juste venir gérer ou venir faire des recherches sur les gorilles ou gérer un parc. C'est voilà, prendre en considération l'ensemble, enfin le contexte dans son ensemble, que ce soit humain, historique et biologique.
C'est la fin du Labomatique. Merci de nous avoir écoutés pendant cette saison riche en actualités scientifiques. Je tiens à remercier pour cette dernière Valérie, Clara, Claude, Rosalie, Julien, Thomas et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce programme. Vous pourrez retrouver le Labomatique dès la rentrée prochaine. Quant à moi, je vous dis salut et même si c'est l'été, restez curieux.